I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme toujours Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de cinéma avec un invité. C'est un épisode un peu spécial ce mois-ci puisqu'on fête la 30e émission et par une belle coïncidence les 3 ans d'Année Lumière. L'occasion de vous dire merci, chers auditeurs, pour votre fidélité depuis tout ce temps, que ce soit sur des années récentes et plus familières, comme sur celles plus lointaines et mystérieuses. Quand j'enregistrais le tout premier Année Lumière dans mon appartement il y a 3 ans, j'imaginais pas fêter une 30e émission comme ça, ici, avec vous. Et pour l'occasion, Année Lumière organise un jeu concours à gagner des DVD des films Riders of Justice et les Mitchell contre les machines, en partenariat avec le magazine Cinématiseur. Et des films Le Vent se lève de Miyazaki et Le Conte de la princesse Kaguya de Takahata en partenariat avec Wildside, deux films qui vont être abordés dans l'émission d'aujourd'hui et qui font partie de la belle collection Ghibli disponible en DVD et en Blu-ray chez cet éditeur. Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Twitter d'Année Lumière. Ce mois-ci, mon invité est journaliste et critique de cinéma pour le magazine Première. Vous avez notamment pu apprécier sa plume dans la revue Technic Art ou sur le site du Point Pop. Il aime David Lynch, Showgirls de Paul Verhoeven, le rap et les Doritos. Cet homme de goût, c'est François Rieux. Salut François.
Salut Thibaut. Le rap et les Doritos, je sais où t'es allé le chercher.
Comment
et
ça
T'allais fouiner très très loin.
Ah, je m'informe sur mes invités.
Très très loin.
Et du coup, voilà.
Bah, je suis ravi d'être là et bon anniversaire.
Merci beaucoup. Eh bien, c'est un plaisir en tout cas de t'avoir en invité et merci d'avoir accepté l'invitation.
Plaisir partagé, comment dire non à cette émission où une bonne partie de la crème des journalistes ciné sont passés, des copains et d'autres collaborateurs. Donc, je suis très content d'être là.
C'est une grande famille en tout cas.
Ouais, ça a l'air.
Alors ce mois-ci, on fait un bond de presque 100 ans par rapport à la dernière émission, 1919. Pour parler d'une année de cinéma toute proche de nous, un millésime dominé par une tendance, celle de la suite, la séquelle, la franchise, pour mieux fidéliser un spectateur adepte du feuilletonnant. Une année où l'originalité doit se chercher et se trouve nichée, entre autres, dans l'un des plus grands festivals du monde, qui décerne alors sa plus haute distinction à un film polémique et éperdu. L'année enfin d'un acteur incontournable qui offre toutes les dimensions de son talent dans 3 films pivots et passionnants. Bref, aujourd'hui, on discute de la grande année 2013. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun, we're up all night to get some. We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. Get Lucky des Daft Punk, souvenez-vous, on écoutait tout ça en 2013, on dansait sur ça en 2013. François, tu dansais là-dessus en 2013.
Moi, je danse pas trop. Je suis plutôt collé au mur et j'observe, mais non, c'est...
Et dans ta tête, tu danses un peu.
Ouais, ça dépend ce qu'il y a dans les veines, mais non, si, c'est une très bonne chanson. Puis moi, je la compare avec un très beau coucher de soleil que j'avais vu un été, et avec cette chanson qui était en fond à une fête. Donc c'est un joli souvenir.
Évidemment. Alors 2013, pourquoi avoir choisi cette année-là, cette période-là, François ?
Écoute, parce que 2012 était prise, non ?
Oui, c'est vrai.
Non, alors 2013, il y a plusieurs points, quelque chose déjà d'assez un peu ridicule, mais moi je marche souvent aux signes et aux choses comme ça. Il y a cette idée d'un peu, on arrive au bout de 10 ans, si tu veux, bon là on est en 2022.
Ah, mais c'est il y a 10 ans, ouais.
Ouais, voilà, tu vois, dans quelques mois on sera en 2023, ça fait 10 ans, donc je pense qu'il y a une idée de cycle, qu'on peut plus facilement revenir sur les films quand ils ont 10 ans d'âge, plutôt de déclamer à chaque fois que ce film est un chef-d'œuvre et qu'il restera inscrit dans le temps. Et puis c'était une très belle année, comme tu l'as dit dans ta jolie introduction. Enfin, il y avait à la fois tout ce côté un peu charnière, parce qu'en 2012, il y a le premier Avenger. Et finalement, en 2013, amorce, il y a Iron Man 3 qui arrive, ouais. Il y a Thor 2. Enfin, on voit vraiment les franchises de Marvel qui commencent à balbutier. Mais par contre, il y a quand même encore un cinéma d'auteur. Enfin, il y a les frères Coen avec Inside Llewyn Davis, Nicholas Winding Refn avec Only God Forgives. Il y a La Vie d'Adèle. Enfin, il y a vraiment un Cannes qui avait été exceptionnel. Et le dernier point, je pense aussi, c'est purement subjectif. C'était ma première vraie année de journaliste. Ouais. Donc, où je continuais, à l'âge où j'avais à ce moment-là, à perfectionner ma cinéphilie et à écrire sur des films. Je commençais à piger dans un canard de ma ville. Et donc, du coup, voilà, c'était très, très cool de se replonger 10 ans en arrière et avec d'aussi bons films.
Ce qu'on a choisi. Ouais, évidemment. Ce qui est à la liste est longue, mais effectivement, c'est un voyage, du coup, un peu introspectif.
Ouais, il y a de ça.
Peut-être un petit retour en arrière. Alors, tu l'as dit, donc 2013, pour mettre un peu de contexte, comme d'habitude, c'est l'année où Xi Jinping est élu président de la République populaire de Chine, où Benoît XVI annonce sa renonciation et que Jorge Mario Bergoglio devient le nouveau pape François. L'année encore des premières révélations d'Edward Snowden et de la promulgation en France du mariage entre personnes du même sexe. C'était enfin la 100e édition du Tour de France, la fin de la série The Office US et la sortie du livre Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, qui sera adapté au cinéma en 2017 par Albert Dupontel. Mais 2013, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. Cette année-là, tu l'as dit François, c'est assez phénoménal. Les spectateurs en prenaient d'abord plein la tête avec les blockbusters comme Iron Man 3, Fast and Furious 6, Le Hobbit 2, Thor 2 ou Hunger Games 2, et plein le cœur avec Heure de Spike Jonze, Before Midnight ou La Vie d'Adèle. On allait voir Inside Llewyn Davis des Coen, Prisoners de Denis Villeneuve, La Grande Bébé-Lezza aussi, Le Loup de Wall Street, 12 Years a Slave. Bref, c'était une année folle de cinéma et je pourrais continuer comme ça longtemps. Mais cette année-là, un phénomène semble s'installer pour de bon dans le cinéma américain. On l'a dit, suite, préquel, remake, des mots qui trustent dorénavant les cimes du box-office pour le bonheur des spectateurs, avides de ses franchises. Mais dans cet océan de dérivés, un film, comme une anomalie dans le système, sort du lot. Il est original, il est au cœur de notre premier thème et il s'appelle Gravity. Cette musique de Steven Price, la musique du film Gravity d'Alfonso Cuarón, effectivement un film un petit peu particulier dans l'horizon du cinéma américain en 2013, puisque en 2013, cette année-là, dans les 10 premiers du box-office américain, un film, un seul film, est une histoire originale, c'est-à-dire pas une suite, pas une préquelle, pas un reboot ou pas adapté d'un matériel existant, et ce film-là c'est Gravity. Pour vous donner le reste du top 10 du box-office américain cette année-là, donc on a Hunger Games 2, Iron Man 3, La Reine des Neiges, Man of Steel, Fast and Furious 6, Le Monde Fantastique 12, Le Hobbit 2, Monstre Academy, donc vous l'aurez noté, que des variations, dérivées, adaptations, etc., etc., etc. À part Gravity d'Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock et George Clooney qui raconte l'histoire de deux astronautes en gravitation autour de la Terre dans la station internationale et qui se retrouvent au milieu d'un accident qui les envoie perdus dans l'espace véritablement. Et ils vont devoir, en tout cas, Sandra Bullock va devoir retrouver son chemin vers la Terre toute seule alors qu'elle part de l'espace et qu'elle se retrouve à 600 bornes de la planète Terre. Alors, Gravity, c'est un film qui est donc sixième du box-office américain en 2013. Il réalise 274 millions de dollars au box-office américain et plus de 700 millions de dollars dans le monde, donc c'est assez impressionnant. Je sais que Dune, pour vous donner une idée, a fait 400 millions de dollars en 2021, donc ça vous donne un peu une idée de l'impact qu'a eu Gravity, en tout cas en 2013. C'est un très 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 joli score. Et c'est un film qui est écrit par Alfonso Cuarón et Jonas Cuarón, donc les deux frères, et qui est inspiré justement des rêves d'espace de ce duo-là. Quand ils étaient enfants, ils ont vu Apollo 11, le décollage en 69, etc., etc. Et ils avaient du coup aussi cette volonté de faire un drame avec une femme dans l'espace. Et c'est enfin un projet qu'ils développaient depuis 2008 à Warner Bros. Et qui a finalement éclos. Avant de plonger dans la discussion, François, j'aimerais continuer, on va dire, la mise en contexte que je fais. Pour vous donner une idée, dans les années 80, il y avait à peu près 49% des films du top 25 du box-office qui étaient du contenu original. Dans les années 90, ça tombe à 40%. Et en 2010, dans les années 2010, ça tombe à 23%. Donc, dans l'espace de 30 ans, 40 ans, en 4 décennies, la proportion de films originaux, on va dire, a été divisée par 2, voire plus que par 2. Ce manque d'originalité, c'est la faute à qui?
Waouh, la question à 1 million de dollars, la faute à qui
au producteur, au public, des deux.
Tu sais, en plus, moi, plus je vieillis, plus je suis un peu un vieux con, et je trouve ça en fait désolant, cette division, cette dégringolade. Je me dis, du coup, en 2020, combien il y a de projets originaux? Je sais pas, c'est vrai que l'industrie, elle a muté. En 2013, donc il y a 10 ans, le public avait un peu, et je m'inclus dedans bien sûr, avait un peu l'impression que ça venait de la part d'une certaine frilosité des producteurs. Est-ce que ce film-là est pas trop intelligent? Est-ce que ce film-là est pas trop mature? Est-ce qu'il va ramener de l'argent? Est-ce qu'il va pas faire peur aux enfants? T'avais vraiment l'impression qu'on rentrait dans ce cycle-là où maintenant on est un peu en plein dedans de il faut surtout que le spectateur sache ce qu'il va voir, qu'il ne soit pas choqué, qu'il soit ravi de ce qu'il a vu. Et il y avait une étude qui montrait, alors pour le coup, pour le public américain regardait énormément les bandes annonces. Ouais. Et plus les bandes annonces étaient longues, plus ils savaient ce qu'ils allaient voir, plus ils étaient sûrs d'aller prendre un billet pour voir ce qu'ils avaient vu sur la bande annonce.
C'est vrai que maintenant, tu as des bandes annonces de 3 minutes, quoi.
Je trouve ça assez dingo. C'est dingo.
Sachant que je tiens à quand même préciser à nos auditeurs, originalité ne veut pas dire qualité. On fait bien le distinguo. Ça n'a rien à voir par rapport à la qualité des films. Il y a des très bonnes suites, très bons dérivés, très bonnes franchises, etc.
Mais c'est juste sur ce que tu as énoncé, le top 10. Que tu as énoncé, c'est, je trouve ça d'une tristesse. Iron Man 3, Thor 2, il y a quelque chose.
C'est des films dont on se souvient
très peu.
Effectivement, au final.
Thor 2, la hype de l'époque, c'est parce que ça avait été réalisé, scénarisé, je crois, par les mecs de Game of Thrones. Parce que Game of Thrones était un peu une certaine forme d'apogée, où ça allait vers l'apogée. Iron Man, c'était cool parce que c'était Shane Black, mais bon, c'était toujours moins bon qu'un Kiss Kiss Bang Bang.
Mais c'est vrai que c'est pas des films qui ressortent du lot dans les Marvel movies. Il y a même d'autres films Marvel qui sont bien mieux que ces deux-là, par exemple. Mais après, c'est un exemple.
Mais t'as l'impression qu'il y a un fossé de compréhension entre même parfois les fans de Marvel. On parlait de The Batman en off tout à l'heure, mais t'as l'impression qu'il y a une incompréhension des fois entre ce que veulent les fans et ce que les studios comprennent de ce que veulent les fans. Et on parlait, alors c'est un peu galvaudé de dire à chaque fois une année charnière parce qu'on peut trouver une année charnière partout, mais il y a vraiment ce truc 2013 de on va un peu vers un tout franchise, un tout suite, c'est pour ça qu'on parle de cette thématique là et Gravity, ça apparaît comme quelque chose de plus un caillou dans la chaussure, quoi.
Après, peut-être que nous on se fait des idées, mais Hollywood peut-être est une industrie conservatrice par nature. Et du coup, effectivement, c'est toujours plus facile de proposer au public des choses qu'ils connaissent, parce que l'être humain,
bien sûr,
il va naturellement vers quelque chose qui lui est familier. On est tous fait pareil. Il y a toujours ce petit. C'est toujours plus compliqué de sortir de sa zone de confort que de,
bien sûr,
que d'aller voir quelque chose de qu'on connaît. Et du coup, effectivement, Hollywood, c'est aussi se caler sur des valeurs sûres. Ils savent qu'avec Spider-Man, ils savent qu'avec des grands noms, des grandes franchises, des grands personnages, les gens vont y aller automatiquement. Et on l'a vu d'ailleurs ces deux dernières années avec le Covid, où les rares grosses sorties hollywoodiennes sont sur ces franchises-là, justement.
Oui, et puis les autres se sont gaufrés, on peut parler
ou de
Tenet, j'allais te dire Tenet. Mais non, c'est assez particulier. Puis maintenant, il y a un nouveau dénominateur qui est en fait la nostalgie. C'est-à-dire maintenant, il faut qu'on aille encore plus puiser dans la nostalgie. Donc on a essoré la nostalgie des années 80. Maintenant, on va vers une nostalgie des années 90. Donc c'est. Moi je me sens vraiment en décalage. C'est le cycle de la vie, mais ça veut dire quoi? Que du coup, dans 20 ans, il n'y aura plus que 10% de projets originaux. Non, mais par contre, tu as raison sur un point, c'est que l'industrie reste une industrie, c'est-à-dire qu'elle est là pour faire de l'argent. Donc on ne va pas la blâmer de ne pas faire des films comme, je ne sais pas moi, tu vois.
Non, Hollywood n'est pas l'armée du salut.
Enfin, oui, voilà, non, mais il y a de ça. Après, c'est vrai que quand il y avait le nouvel Hollywood où tu te disais, bon, il y avait un parrain, il y avait Conversation secrète, enfin, tu vois, en plus en ce moment, il y a des débats, Coppola, Marvel et tout ça, enfin, on en a marre. Je ne sais pas, il y avait une liberté qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Les gens ont trop peur de perdre de l'argent.
Là, tu dis quelque chose d'intéressant et tu me tends une perche intéressante. Vas-y. C'est que du coup, j'allais te demander où est passée l'originalité. C'est que là, ce qui nous étonne, nous, c'est qu'on a comme référence des films des années 70-80 qui étaient donc des blockbusters, des films très populaires. Et là, on se rend compte que ce type de film très particulier, c'est-à-dire le blockbuster, le film très populaire, ces films qui font beaucoup d'argent, ne sont plus originaux. Donc, ça veut dire que l'originalité est n'appartient plus à ce modèle blockbuster et aller se nicher dans d'autres compartiments économiques de l'industrie. Et peut-être dans des
séries,
elle est,
peut-être.
En 2013, elle est où l'originalité à ton avis?
T'avais des discours même parmi certains journalistes, tu vois, un peu puants, qui étaient de le vrai cinéma, il est dans la petite lucarne, tu vois, c'est à la télévision. Game of Thrones était là, c'est quand même mieux que ce qu'on nous propose en termes de blockbuster. Tu te rappelles
qui
pas
une
cette
adaptation de livre
en fait. Oui, en plus. Mais le fait d'être une adaptation, ça remet pas forcément en cause la qualité du truc, mais il y a vraiment. Un processus de pré-mâchage des studios. En plus, maintenant, on n'a même plus le nom des cinéastes sur les affiches. Enfin, c'est des yes men. Ils sont virés, on ne sait pas pourquoi. Il y en a un nouveau qui arrive. Il n'y a plus trop de pattes distinctes. Tu vois,
peut-être qu'on en demande trop aux blockbusters, tout simplement. Peut-être qu'on a tellement grandi avec. Et encore une fois, tu vois, dans notre tête, on va avoir des références, mais Jurassic Park, c'est une adaptation. On peut penser à Indiana Jones.
Le parrain aussi.
Indiana Jones, c'est certes un produit original, mais extrêmement référencé. Star Wars, c'est certes un produit original, un film original, mais.
C'est un joli lapsus.
C'est un produit. C'est un film original, mais extrêmement référencé aussi. Donc finalement, on est bien mignon à défendre l'originalité, mais tous les films qu'on aime, ce sont que des films références. Adapté, ou qui nous tue, et voilà.
Je pense que c'est propre à la vieillesse de dire que c'était mieux avant, et que je pensais pas en arriver là, mais t'arrives là.
Ne dis pas ça, François.
Il y a quand même une force aujourd'hui du public, et je pense encore à cette caisse de résonance des réseaux sociaux, qui est un point non négligeable sur le futur de l'industrie.
On va en parler, ça, de finalement, qu'est-ce qui va rester de tout ça. On va en parler dans la suite de notre thème. Et du coup, je voulais revenir avant ça sur, du coup, l'anomalie un peu de cette année 2013, de ce box-office où il n'y a que des suites, des séquelles. Il y a Gravity au milieu de tout ça. Ce film original, d'une idée originale, qui vient de nulle part et qui fait 700 millions de dollars au box-office mondial, pardon. Et qui est, du coup, ce phénomène. Moi, je me souviens quand c'était sorti, il y avait les affiches. C'était 4 ans après Avatar, donc il y avait encore cette vibe 3D, IMAX. En fait, il y avait une sorte de.
C'était vendu comme une nouvelle Avatar.
Voilà. Quelles sont les raisons du succès de Gravity? Est-ce que c'est parce que c'est un film original ou est-ce que c'est parce que c'est un film événement?
Ouais, puis en fait, c'était dans mon souvenir et c'est ce que j'avais ressenti, surtout les premières 45 minutes du film, enfin la moitié du film, vu qu'il fait 1h30, mais c'était vendu comme étant une expérience de cinéma unique. Ah ouais. Tu vois, genre le Futuroscope, mais en 1000 fois mieux.
Avec
une histoire quand même assez rachitique, à savoir un survival avec deux personnes perdues dans l'espace, mais avec des points de mise en scène, des points de vue intéressants, tu vois, quand on voit à travers les yeux, c'est presque jeu vidéo ludique, quand on voit à travers les yeux de Sandra Bullock. Et il y avait, je pense aussi, quelque chose qui n'est pas négligeable, qui était la 3D, qui était en pleine expansion. Vous avez fait un très bon sujet sur la 3D avec Perrine Kenson, que je salue, à l'époque d'Avatar, et c'est vrai qu'il fallait qu'il y ait cette année-là aussi un spectacle de 3D
sensationnel
hyper sur le ressenti, tu vois.
C'est vrai que ça a été marketé comme ça, hein. Finalement, en fait, l'originalité du film n'a pas du tout été mise en avant,
c'était surtout pas si original que ça, le film.
Oui, parce que du coup l'histoire, Alien, si vous le revoyez, est assez simple et assez. Mais du coup, c'est vrai que c'était surtout aller voir ce film parce que ça va être c'est un événement, c'est sensationnel. Vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez jamais vécu ça. C'est de la 3D, c'est de l'IMAX, et finalement, c'est des leviers qu'utilisent aussi les blockbusters de 200 millions de dollars comme Iron Man et Thor. Ouais. Vous n'avez jamais vu ça.
Après, il y avait aux manettes quand même Cuaron, qui est quand même un existentialiste, qui est très porté sur le futur.
Enfin, Cuaron, c'est les fils de l'homme,
les fils de l'homme qui est
Harry Potter et prisonnier d'Azkaban. Ouais.
Le meilleur Harry Potter, les fils de l'homme, qui est un terme aussi galvaudé mais visionnaire, mais qui parle quand même de 2027, et on se rend compte que les thèmes qu'il a abordés, certains se sont réalisés en 2017. C'est peut-être parce qu'il y a un vrai faiseur, même si j'aime pas le terme, derrière la caméra, le scénario à quatre mains avec son frère aussi. Enfin, c'est pas simplement le but n'est pas tant uniquement que de divertir, mais que de faire aussi réfléchir le spectateur, tu vois. Il n'y a rien de pire que je vais voir un film, j'ai envie de poser mon cerveau. Et par le biais de l'expérience sensorielle, parce que c'est une expérience sensorielle, comme peut l'être Enter the Void de Gaspar Noé ou 2001 de Kubrick, la force de Gravity, elle est là. C'est-à-dire d'être dans une espèce d'attraction. Tu sais, c'est un peu comme le livre dont tu es le héros, ouais. Tu vois, quand on était gamin. Et ben, il y a beaucoup de scènes qui sont vues à la première personne où Sandra Bullock disparaît de l'écran et où tu vois ses mains et puis
c'est de la VR hein, ouais.
Ah oui, totalement, c'est presque la VR avant l'heure et c'est vrai que je trouve d'ailleurs beaucoup plus dynamique la première moitié du film que la deuxième qui est un peu plus morne. Mais moi j'ai un souvenir, et je suis pas forcément quelqu'un qui est très fan de tout ce qui est spatial et tout ça, mais j'ai un souvenir d'être sorti de là assez essoré dans le bon sens du terme, ouais. Parce que il y avait des idées de mise en scène, de l'action, un réalisme aussi, je sais pas si tu te rappelles, mais il n'y a pas de son. Oui. Et donc quand il y a les débris de satellites qui détruisent la station spatiale, c'est du visuel, et c'est du visuel qui envoie.
Puis la vision de la planète Terre, ouais, c'est lointaine, c'est quand même magnifique. On vous invite à revoir effectivement le film de 10 ans après, ça n'a pas vieilli du tout.
Pas du tout.
Effectivement, il dure 90 minutes, et heureusement, parce ouais. que il est vraiment un peu épuisant quand même comme film. Ah oui, oui. Il sollicite beaucoup
c'est
le spectateur.
Très angoissant.
Donc il a une histoire un peu, que moi je trouve peut-être un peu simpliste, mais bon, est-ce qu'il fallait pas forcément une histoire simple pour justement donner le manche à l'expérience sensorielle plus qu'au narratif.
Ouais, une histoire vraiment rongée à l'os. Alors après, ça a pas vieilli, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, l'expérience de télé, ouais, encore on fait le vieux con, hein, mais l'expérience ouais. de télé, même si on a une bonne installation, ne vaudra jamais l'expérience qui avait été de voir ce film-là en salle. D'ailleurs, peut-être qu'il c'est ressortira. Sûr. Parce qu'il y avait vraiment ce côté immersif. Alors, je parlais du Futuroscope pour rigoler tout à l'heure, mais il y avait quand même ce côté fête foraine, tu vois.
Venez le voir en salle, c'est à ce moment-là que ça se passe. Comme on a eu cette année pour Dune.
Absolument.
Comme on en a régulièrement tous les ans, il y a toujours un marketing qui est axé sur c'est une expérience. Venez le voir, et d'ailleurs c'est pour ça que IMAX fait de plus en plus de...
Bien sûr.
Bah, une expansion folle.
Et comme vous aviez pu évoquer avec Perrine Avatar, il y avait aussi dans Gravity cette idée de tu vas le voir en 3D, tu vas le voir en IMAX, tu vas le voir en IMAX 3D. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le même film, mais je me rappelle à quel point c'était un événement. Puis t'as ce côté aussi, l'espace ça fascine, hein. Tous les cinéastes ont envie de faire un peu leur 2001 et Gravity, sans parler d'ouvrir la voie parce qu'il y en a eu d'autres, mais juste après t'as Interstellar de Nolan, t'as The Martian de Ridley Scott, Life, Ad Astra de James Gray qui date d'il y a 2-3 ans, très formidable, et qui a aussi une expérience un peu sensorielle quand il y a le drive-by shooting sur la lune sans son, avec la pesanteur, tout ça. Le film quand même, je pense, même si moi je le reverrai que dans 10 ans, là j'ai revu pour ton émission, donc je le reverrai une fois tous les 10 ans, c'est pas un film de chevet, tu vois, mais il est quand même un peu le maître étalon de ce que pourrait être vraiment aujourd'hui encore le cinéma de blockbuster, sensationnel, original, ambitieux, sensoriel, beau, et même les vannes de George Clooney, bon, c'est pas grave, hein.
Et donc tu dirais que c'est encore, donc là encore, un maître étalon, donc c'est dirais que 10 ans après, c'est un film qui reste. C'est marrant parce que là, on a parlé au début effectivement du fait que 2013, on arrive doucement aux 10 ans, c'était il y a 10 ans, et au bout de 10 ans, c'est le moment où officiellement un film devient un film de patrimoine, c'est-à-dire c'est le moment où du coup le film entre guillemets rentre dans l'histoire de l'humanité comme un film de patrimoine, et donc plus un film d'actualité, on va dire. C'est le label officiel, en tout cas en France. Et du coup, ça pose la question, en 2013, de ces films qui restent, quels films vont rester dans la mémoire collective? Là, on parle de Gravity, est-ce qu'il est resté? Et du coup, voir ce box-office de suite et de préquel, ça pose la question de savoir quel héritage ces films-là laissent au cinéma américain. Quels films resteront dans la mémoire collective et dans l'histoire du cinéma en 2013?
C'est une question hyper intéressante parce qu'en fait, il y a tellement de franchises, tu vois, de prequels, sequels, reboots à cette époque-là, que effectivement, Gravity aurait pu être noyé dans une très 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 longue liste de films un peu bidon de lessive. Mais moi j'ai l'impression par exemple que Interstellar, que j'aime pas forcément mais pour d'autres aspects, donc ça c'est un avis subjectif, mais objectivement je trouve qu'Interstellar, presque 10 ans aussi après, vu que c'était l'année
2014,
d'après,
ouais.
Il reste parce qu'il y a une espèce de nouvelle génération de cinéphiles à ce moment-là qui commençait à ne jurer que par Nolan et effectivement à ne jurer que par Interstellar de Nolan. Donc peut-être que Interstellar va plus rester dans les années qui suivent que Gravity.
Sans doute.
Mais est-ce que, et là je m'avance parce que je suis pas Christopher Nolan, mais loin de là, mais est-ce que Nolan aurait tenté cette aventure-là s'il n'avait pas entendu parler de Gravity, s'il n'avait pas vu Gravity, s'il n'avait pas eu ce film-là qui a déjà, bon, même si lui il poursuit Kubrick depuis, depuis des années, on le sait, mais. Et je ne savais pas que, par exemple, le projet de Gravity datait de 2008.
Ouais.
Donc, quand même, c'est une gestation de.
Oui, on peut supposer que Nolan est sur Interstellar depuis quelques temps, mais sans doute que le succès de Gravity a pu lancer quelque chose. On parlait d'Ad Astra.
Ça donnait feu vert.
Ça a donné une impulsion à plein de films, peut-être, sur. De science-fiction un peu différent.
Oui, puis il y a vraiment cette succession de The Martian de Ridley Scott l'année d'après, le survival life qui est pas terrible mais qui est un peu une ressucée d'Alien avec Jake Gyllenhaal et Ad Astra, alors qu'Ad Astra c'est quand même James Gray, quelqu'un qui est plus habitué à filmer des mafieux dans des tripots enfumés et mal éclairés que d'envoyer des gens dans l'espace. Donc je pense qu'il y a, une sorte peut-être, et je m'avance là aussi un peu, mais on est là pour discuter. Pas pour dire n'importe quoi, mais on est là pour tirer un peu la pelote de laine. Mais est-ce que, effectivement, en oubliant le mastodonte 2001 en 68, est-ce que Gravity, il n'a pas engendré des petits gremlins, ouais, dont Ad Astra et Interstellar
Pourquoi pas, c'est effectivement une bonne
peut-être
question.
Plus que lui.
Ouais, c'est peut-être une question effectivement qui est bonne à se poser, sachant qu'après, moi, j'ai eu l'occasion de feuilleter ce week-end les livres. 100 films des années 2010, 100 films des années 2000. Et du coup, mes parents avaient ce film 100 films des années 2010. Et par curiosité, je l'ai feuilleté et je suis allé à l'année 2013 pour voir quel film la rédaction avait sélectionné. Et il y avait tous les films dont on va parler. Il y en avait, je crois qu'il y en avait peut-être 5, 6 en 2013. Ouais. Et c'était les films dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire Gravity et puis les autres de cette émission-là. Donc, mine de rien, il y a quand même, quand il faut choisir, une sorte de consensus sur ce film-là en disant c'est des films quand même importants. Enfin, il n'y a pas Iron Man 3 et Thor 2 dans le film, exemple.
C'est sûr. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais tu as le consensus aussi de tous les tops de journalistes et de journaux à travers le monde, les top 10 de fin d'année, où effectivement Gravity revenait dans les premiers. C'est quand même qu'il a marqué son époque. Maintenant, est-ce que dans 10 ans, on reparlera Gravity? Je ne sais pas. Est-ce qu'on reparlera d'Interstellar? Je pense, plus.
Oui.
Mais d'accord, ça, pareil, c'est aussi la force des fanbases, tu vois. Les fans de Christopher Nolan peuvent porter ça pendant très longtemps.
Et du coup, pour filer la réflexion sur cette mémoire du cinéma américain, est-ce que la prédominance des séquelles et des franchises et d'Iron Man 3 et des Thor 2 est pas en train d'assécher un héritage cinématographique américain? Iron Man 3, Thor 2, encore une fois, moi, il y a des films Marvel que j'aime beaucoup, mais Iron Man 3 et Thor 2, ou Hunger Games 2, ou tous les films que j'ai cités là en 2013, malheureusement, sur la liste de 10 films, il n'y en a pas beaucoup qui sortent du lot, en tout cas qui sont mémorables.
Et encore Hunger Games, c'est aussi, dans une autre mesure, un espèce de maître étalant du sous-genre Young Adults qu'on vendait de 2012 à 2016 parce que Harry Potter était terminé, parce que Twilight, on aime, on n'aime pas, mais était terminé, il fallait vite trouver un successeur. Donc il y a eu Hunger Games, après il y a eu un sous-Hunger Games qui était Divergente. Ouais. On a quand même l'impression qu'un cinéma, peut-être pas mainstream, mais vraiment blockbuster, ou de franchise, de studio, il est là juste pour faire du fanservice. Et on l'a vu récemment avec Spider-Man New Way Home. Et je suis sûr que si j'avais eu quelques années de moins ou que j'avais un enfant, j'aurais kiffé aller voir ce film-là. Mais dans la représentation et dans ce que veut m'amener, j'allais presque dire, tu vois, je parlais de produit, mais j'allais dire dans mon assiette, mais dans ce que veut m'amener le studio, j'ai pas envie de manger ça.
Bah après, ça nous amène à poser la question, on ne va pas avoir le temps de la poser là, mais de qu'est-ce que ça dit des spectateurs des années 2020, qu'est-ce que ça dit des spectateurs des années 2010, qu'est-ce que ça dit sur nous. Si ces films-là marchent autant, ça veut dire peut-être que ça raconte quelque chose sur notre humanité, d'une certaine manière.
Et puis en plus, il y a quand même le Covid qui est passé par là, donc là, je comprends l'idée qu'à un moment donné, il faut se distraire aussi, tu vois, c'est pas évident de regarder aussi un film hyper dépressif, aussi qualitatif qu'il soit.
Mais on pourra en discuter peut-être dans l'année quand on fera 2020 ou 2021, ça sera intéressant peut-être effectivement de se dire... qu'est-ce que ça dit de nous? Pourquoi ces films-là? Pourquoi on va vers ce référencement en cycle, en boucle?
Tu vois, on est quand même contemporain de notre époque, et ça c'était il y a 10 ans. Est-ce que tu remarques pas que ça fait 6 mois que les discussions qui alimentent certaines sphères de réseaux sociaux, c'est quand même Scorsese versus Marvel, depuis 2 jours Coppola versus Marvel. Il y a cette idée de aujourd'hui, il n'y aurait pas la place pour les deux. Moi, j'aimerais qu'il ait la place pour les deux, à savoir du Scorsese en studio et du Marvel. Mais il y a toujours ces connotations d'argent et de rendement. Et ouais, c'est une industrie. Donc,
Bah, Scorsese est sur Apple là, mais
oui.
D'ailleurs, ça arrive en novembre.
Mais le plus important, c'est que juste qu'un film qui soit Marvel, DC, Scorsese, Coppola ou quoi, le but de pour, selon moi, d'un bon film, même pas un film qui va rester, mais d'un bon film, c'est un film qui ne se moque pas du spectateur, tu vois, qui n'est pas juste une vache à lait. Moi, je me suis éclaté à regarder les Fast and Furious, mais au bout de 9, voilà, tu commences à avoir un peu des aigreurs d'estomac. c'est un peu pareil avec les Marvel, mais je comprends que ça fonctionne. Et ça avait l'air délirant de voir les trois Spider-Man dans le dernier Spider-Man. C'est cool. Ça me parle pas, mais ça avait l'air délirant.
Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème. Ça avait l'air délirant. Ce premier thème d'Année-Lumière consacré à l'année 2013, où on a parlé effectivement de franchise, de dérivés et de Gravity. Vous êtes toujours en train d'écouter Année-Lumière. On est toujours avec François Rieu et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission. Follow Rivers de Licky Lee.
Licky Lee, je crois.
Licky Lee.
Suédoise, je crois.
Je crois. La chanson, de la bande originale du film La vie d'Adèle, qui est effectivement l'un des grands films de cette année 2013 et qui va être au cœur de notre second thème. Puisque La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, avec Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux et d'autres, raconte justement l'histoire de cette jeune lycéenne, Adèle, qui est convaincue d'aimer les garçons jusqu'au jour où d'autres désirs apparaissent, depuis qu'elle a croisé notamment le chemin d'une certaine Emma. Ce film est adapté du roman graphique Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot et c'est la palme d'or du Festival de Cannes 2013 présidé par Steven Spielberg, président du jury. Un jury composé notamment de Daniel Auteuil, Naomi Kawase, Ang Lee, Christiane Mungiu, Lynn Ramsey, Christoph Waltz et Nicole Kidman, magnifique jury. Et donc cette palme d'or, La vie d'Adèle, et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que déjà La vie d'Adèle c'est un film qui en tout cas reste dans les mémoires, là on parlait en off, c'est un film qui évoque en tout cas quelque chose encore aujourd'hui, 10 ans après, c'est générationnel, et c'est une palme d'or donc c'est forcément significatif, et c'est un film en tout cas quand c'est sorti, qui a aussi créé la polémique, notamment parce que c'est un film où il y a des scènes de sexe non simulées, très crues, très longues, parfois pénibles pour certains, c'est un film aussi qui a créé une controverse plus professionnelle, puisque notamment le syndicat des professionnels du cinéma et de l'industrie a critiqué les conditions de tournage difficiles, les heures supplémentaires qui étaient non payées, un réalisateur tyrannique, Abdelatif Kechiche, le harcèlement moral de Kechiche sur des techniciens, sur les actrices qui après coup ont fait des sorties pour plus ou moins défendre le film,
dans
plus ou moins se détacher de Kechiche. En tout cas voilà, c'est un film qui est important en 2013. Avant de rentrer peut-être dans ce côté polémique du film, parlons du film. La vie d'Adèle, quand ça sort en 2013, quand ça sort au Festival de Cannes en 2013, est-ce que c'est pour toi une palme évidente ou plus politique?
Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est les deux, parce que effectivement, faut rappeler peut-être à tes plus jeunes auditeurs que le film sort dans un contexte de la loi pour le mariage pour tous.
Oui, c'est la même année que s'est promulguée la loi.
Exactement. Et effectivement, il y avait beaucoup de remous dans l'opinion publique, notamment dans une association catholique d'extrême droite qui s'appelle Promouvoir, qui voyait d'un très mauvais œil qu'on montre à des enfants. Des scènes d'amour lesbien. À côté de ça, le film a quand même beaucoup de qualités. C'est quand même la révélation de deux actrices, à savoir Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, deux actrices qui restent aujourd'hui, dont une qui tourne quand même dans James Bond, faut le signaler.
Oui. Et dans Mission Impossible.
Qui a une carrière qui s'est exportée. Le film qui devient intitulé Le bleu est une couleur chaude, qui se transforme en La vie d'Adèle, donc on a une actrice débutante, c'est l'un de ses premiers films, mais c'est son vrai premier grand rôle, et le réalisateur transfigure le titre pour mettre vraiment le visage de son actrice. La vie d'Adèle, je trouve ça assez fort.
D'ailleurs, la Palme d'Or est remise.
C'est une triple Palme d'Or.
Est remise à la fois au film et aux deux actrices. Ouais. Avec Exarchopoulos, c'est assez doux. Et pour ponctuer, je te laisse la parole après, c'est une Palme d'Or aussi attribuée à l'unanimité.
Absolument. Voilà. Absolument. Ce qui est plutôt rare. Mais moi, je me rappelle que ça avait déchaîné Christine Boutin sur les plateaux. C'était vraiment un film et en même temps qui a été désavoué par l'auteur de la BD originale, qui a dit il a dépouillé de sentiments et finalement c'est que du cul. C'est vrai que quand t'en parles autour de toi, enfin je sais pas, moi quand j'en parle autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne l'ont pas vu parce qu'ils avaient un peu la trouille de voir ces scènes de cru esthétisées assez longues. Hein. Bon, le film dure 3 heures et si tu les compiles toutes, t'en as quand même pour un quart d'heure.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'un quart d'heure?
Mais c'est quand même des mais scènes longues, ininterrompues de 6-7 minutes.
Ouais, ouais,
et quand t'es un peu jeune, ben t'es bloqué dedans en fait.
C'était un parti. Mais en même temps, je pense que le film a sûrement dû aider des jeunes filles qui avaient besoin de comprendre aussi leur sexualité naissante. C'est-à-dire que le film permet peut-être de s'accepter. Mais on parlait de films générationnels tout à l'heure. Moi, quand j'entends I Follow River de Lee Kelly, dans les mariages notamment, ou des trucs comme ça, ou dans les soirées, je ne peux m'empêcher de penser à la scène de danse dans le jardin du film.
La vie d'Adèle, ouais.
Avec Adèle Exarchopoulos, qui est là à servir tous les invités parce qu'elle veut faire plaisir à sa copine qui est artiste. Et est-ce que le film a pas aidé à des jeunes filles à s'accepter, à s'assumer? Enfin, c'est aussi des fois le rôle d'un cinéma plus politique, plus engagé. Après Keshish, je sais pas si vraiment c'était ce qu'il voulait. Il y a eu après tous les débats avec Make to My Love des années plus tard, du fameux male gaze, le regard de l'homme, le regard du cinéaste homme. Moi, je pense vraiment que c'est générationnel. En plus d'être un excellent film, enfin je l'ai revu pour cette émission. Je l'avais pas vu depuis 10 ans en salle. Avec 10 ans de plus de bouteilles, enfin le film, c'est quand même une histoire d'amour qui naît, qui vit, qui meurt et qui est hyper tragique, mais surtout hyper universelle. Au-delà de l'aspect lesbien.
C'est vrai que quand on parle du film, beaucoup de gens retiennent ces scènes un peu crues, sexuelles, etc., etc. Mais on oublie aussi que La vie d'Adèle est un magnifique film sur une histoire d'amour. C'est une très très belle histoire d'amour sur,
ben,
encore une fois, une lycéenne jeune. On va dire inexpérimenté, qui découvre des sentiments et qui va découvrir au contact de la vie aussi, bah, que ces sentiments, il y a tout un spectre et c'est aussi agréable que violent, et etc., etc. Et c'est une belle histoire d'amour, comme tu l'as dit, qui naît, qui vit, qui meurt. Et c'est un excellent film. Et ce qui est drôle, c'est que en 2013 à Cannes, quand Spielberg donne la palme à La vie d'Adèle, il donne quand même, lui en tant qu'Américain, il donne quand même la palme à un film que son pays, que ses compatriotes ne verront pas. Parce que c'est un film qui, aux États-Unis, va être interdit au moins de 17 ans non accompagné.
Il est interdit diffusion en Idaho.
Voilà, donc c'est un film que lui aussi, je pense qu'en tant qu'Américain, comme tu l'as dit, peut-être qu'il a une dimension et un geste politique de se dire, bah tiens, je vais donner un film que mes concitoyens ne verront pas. Et d'ailleurs, il a été vu par 200 000 personnes aux États-Unis, donc c'est-à-dire sur un pays des habitants, il y en a 330 millions des Américains, donc autant dire peu. Mais voilà, du coup, c'est peut-être aussi un geste de Spielberg.
Oui, finalement,
de ça.
Le film, si tu sors du contexte, ces scènes de sexe esthétisées, crues, certaines non simulées, d'autres avec des prothèses, ou peut-être des doubleurs comme dans Love, je sais plus. Mais je pense que du coup, beaucoup de gens sont passés à côté d'un film hyper, hyper touchant, hyper humaniste. Et on en parle encore aujourd'hui parce que oui, effectivement, il y a eu la naissance de deux actrices où peut-être qu'à l'époque, on se disait non, mais elles compteront pas, ou le film est trop politique. Et quand même, est-ce que c'est grave qu'un film soit politique?
Tout est politique.
Tout est politique. Puis tu as plein de cinéastes qui ont fait des films politiques aussi. Keshish, il a vraiment cet aspect social depuis La faute à Voltaire, L'esquive.
Il raconte que des histoires d'amour jeune. Hein.
Bien sûr.
Que des jeunes qui découvrent. C'est
Make to My Love.
Keshish, il façonne qu'est-ce que l'amour, comment il se traduit, comment il se vit, comment il meurt. Et c'est que des histoires autour de ça.
Il a cette réalité. Des qualités de dire bon bah voilà, je vais montrer 15 minutes de 69. Bon, je peux comprendre, ça bloque, c'est pas forcément un film que tu regardes avec tes parents le dimanche soir après le repas dominical, mais comme on disait, Gravity, c'est pareil, c'est un film qui, il y a quand même quelque chose de générationnel, et je sais qu'il y a des personnes qui ont 10 ans de moins que moi pour qui le film compte beaucoup plus que les gens de ma génération.
C'est un film qui a fait quand même 1 million de spectateurs en France, donc c'est un joli score pour une palme d'or.
L'effet palme.
C'est aussi bah après, oui, voilà. Après, il y a eu des aussi. Mais du coup, tu vois, il y a eu quand même beaucoup de gens qui l'ont vu. En tout cas, 1 million, c'est quand même pas mal. Et moi, j'aimerais bien partager une anecdote aussi qui est rigolote. C'est qu'à l'époque, je travaillais au CNC, à la commission de classification des films.
D'accord.
Et donc, j'étais dans la salle au moment où on a donné à la vie d'Adèle, 12 ans avec avertissement.
Ouais.
Je peux vous dire que c'était très serré.
Sur un moins de 16.
Sur un moins de 16.
Ouais.
Ça, c'est, les débats étaient animés, les débats étaient corrects, c'était parfait. Je ne vais pas pouvoir légalement rentrer dans les détails. Ouais. Mais en tout cas, je peux vous dire que moi, particulièrement, je trouvais le film, c'est mon sentiment, hein, je trouvais que le film parlait forcément à des gens qui sont au lycée, parce que c'est le moment où tu as ce genre de
c'est tourné d'éveil, dans un lycée,
c'est, voilà, etc., lycée, etc., hein. Mais que je trouvais un peu aberrant de le rendre accessible à des enfants de 13 ans, 14 ans, qui vont peut-être pas avoir tout comprendre, qui vont peut-être, et du coup se retrouver parfois bloqués face à des scènes de sexe qui sont très longues, qui peuvent être pénibles. Et quand t'as 13 ans et que tu sais pas forcément ce que tu vas voir, et que ces questions de sexualité machin, elles sont encore trop naissantes, et que t'es un peu en dessous de l'âge des héros, ça peut dénoter. Et du coup, moi j'étais plutôt défenseur de rehausser la classification, mais en tout cas, à l'époque, on en avait décidé autrement.
Ouais, moi je l'avais vu pour le coup dans ma ville natale, donc toute petite salle, et l'effet Palme d'Or faisait que la salle était comble, alors que d'habitude les cinémas étaient assez désertés, ouais, dans ce genre de ville de 50 000 habitants. Les sièges ont beaucoup claqué, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis.
C'est long, sur...
ouais. Ah non, c'est surtout sur la première scène de sexe. Enfin, je revois des gens. Ça me fait toujours penser à, dans les Simpsons, le révérend Lovejoy et sa femme, mais à-t-on pensé aux enfants? Et puis là, tu vois des gens qui claquent les chaises. Et on se serait cru à Cannes, tu vois. C'est dire. C'est marrant. Les gens étaient là, oh, c'est honteux, on veut pas voir ça. Bon, ça fait aussi partie de la vie, hein.
J'aimerais du coup étendre cette discussion. On a parlé de Abdelatif Kechiche. Mm. Il peut faire un cinéma, effectivement, qui questionne, qui dérange, qui bouscule un petit peu à chaque fois que ces films sortent, ça ouais, c'est toujours un peu des événements par rapport à ça. Justement, qu'est-ce que Kechiche dérange en nous? Qu'est-ce qui se questionne? Qu'est-ce qui va chercher qu'on n'aime pas tant?
C'est une bonne question, ça aussi. En fait, il y a ce côté hyper naturaliste de se dire, je fais manger des spaghettis à mon actrice, donc je vais filmer sa bouche qui mange des spaghettis.
Il mange beaucoup de spaghettis dans le film.
Ouais. Je filme une histoire d'amour, donc il faut que je signe, je filme une pénétration. Je pense qu'en fait, ce qui dérange aux gens, c'est que ça ramène à la vie, et il y a certainement un inconfort lié à la sexualité chez les gens. Et c'est pas grave, il y a des gens qui sont en soirée, qui peuvent parler facilement de leur sexualité, d'autres au contraire qui sont très prudes et qui diront pas. Moi je pense que Kechiche, et c'est le seul aspect qui doit déranger son cinéma, hormis peut-être des fois la longueur et aussi certains schémas sociaux où les gens peuvent peut-être ne pas s'y retrouver, mais dans La vie d'Adèle ou dans Make to My Love ou dans Intermezzo qui n'est toujours pas sorti, si vraiment il y a quelque chose qui dérange, c'est la sexualité. Pourquoi on a une journaliste qui publie sur Twitter, après sa séance d'Intermezzo à Cannes, le nombre de culs qu'on a vu à l'écran? Tu sais, c'est Greg Araki, un spécial cinéma queer, LGBT des ouais, années 90, très spécialiste des corps, qui avait dit une fois en interview cette phrase très belle, parce qu'un journaliste lui pose la question, pareil, pourquoi est-ce que vous montrez autant de sexualité à l'écran? C'était à l'époque de la sortie de Kaboom, donc en 2010, tu vois, on est à peu près synchro. Et Araki avait dit, mais en fait, il y a un seul moment où on est sincère avec quelqu'un dans la vie, c'est quand on est nu dans un lit après l'amour. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a cette velléité de Kechiche de se dire ça existe, on va le montrer. Tu vois, tu parlais des États-Unis, les États-Unis sont moins choqués, et c'est un cliché, un lieu commun de dire ça, mais ils sont moins choqués par une décapitation full frontale que les scènes d'Eva Green sur l'affiche de Sin City 2 en 2014. Mm. Il y a un côté très prude qui aussi parfois revient en France. Et tout à l'heure je parlais d'une association, je vais pas la nommer à nouveau parce que j'ai pas envie de lui donner du crédit, et j'avais interviewé plus jeune son président qui m'expliquait qu'il fallait revoir justement la classification de La vie d'Adèle pour sa sortie en DVD,
qui avait été du coup enlevé,
il y a eu cette affaire là et j'avais interviewé cette personne, et effectivement cette personne me disait, vous rendez compte, il y a un jeune homme, il peut aller ou une jeune fille dans la FNAC acheter La vie d'Adèle et la voir chez lui. Ok, quand tu vois ce que tu peux tomber aujourd'hui sur internet, et qu'on peut lutter contre une certaine aussi pornographie peut-être trop agressive pour les enfants.
Représentation de.
Voilà, c'est un faux combat. C'est un faux combat.
Effectivement, cette tendance que Kechiche a dans La vie d'Adèle et dans d'autres films à filmer des gens qui effectivement font l'amour, qui mangent,
ouais,
et du coup le choc que ça crée, la levée de le bouclier bruit, que ça crée, ça me fait penser à exactement une même règle qu'il y avait dans la peinture du 15e, 14e siècle.
D'accord.
Où c'était effectivement interdit ou en tout cas très mal vu de peindre des gens qui étaient en train de manger, ou en tout cas qui avaient la bouche ouverte.
D'accord.
Et du coup, effectivement, c'était une sorte de tabou et du coup ça évinçait de la représentation picturale donc dans les tableaux tout un pan de la vraie vie, c'est-à-dire tout la pan de la vie paysanne ou en tout cas la vie paysanne non fantasmée etc où ben les gens mangent etc. Ce qui est drôle c'est que moi j'aime beaucoup un peintre qui s'appelle Bruegel, spécialisé dans la peinture de ces scènes de la vie quotidienne et où lui il peint allègrement des gens qui mangent avec de la bouche ouverte, des gens qui rigolent, des gens qui vivent véritablement, alors qu'à l'époque c'était mal vu de peindre justement ces motifs-là de gens qui vivent, mangent, rient et du coup font l'amour, mais du coup ça rejoint un petit peu ce qu'on reproche à Kechiche, c'est tout, mine de rien en 500-600 ans ça n'a pas beaucoup changé.
Tu l'as dit, c'est un peu naïf comme ça, mais oui c'est la vraie vie, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, de temps en temps, y a du sexe qui est cru, ou alors il y a du sexe qui marche pas, il y a du sexe qui est moche, il y a des corps qui ressemblent pas à ce qu'on voit dans une série américaine comme Euphoria, enfin, on n'est pas tous bien gaulés. Il y a quelque chose de très naturaliste et de très vrai que montre Kechiche. Après, et ça je laisse vraiment l'autrice de la BD en juger, est-ce qu'il fallait faire 9 minutes de sexe ou est-ce que 2 minutes 30 ça suffisait? Est-ce qu'un jeu de lumière ne pouvait pas cacher? Est-ce qu'il fallait vraiment montrer? J'ai revu aussi pour l'émission le diptyque, mais c'est sorti pour le coup l'année d'après, c'est à la Berlinale en 2013, mais j'ai revu le diptyque en version longue non censurée de Nymphomaniac. J'avais oublié à quel point c'était costaud. Hein.
Oui, bah pareil, Nymphomaniac, c'est
bah, le 2 a été enlevé des salles parce que classique.
Mais du coup, c'est des propositions, en tout cas, toutes les deux fortes.
C'est des films, tu sais pas s'ils vont rester dans le temps, mais en tout cas, ils restent dans la mémoire de ceux qui l'ont vu en salle. Ça, c'est indéniable.
Voilà. Ce film-là, La vie d'Adèle, donc à la Palme d'Or, au cœur d'une édition 2013 de Cannes qui est quand même assez phénoménale. Juste pour vous citer quelques films qui sont présents à Cannes cette année-là, on a la Grande Debellezza de Sorrentino, on a Nebraska de Alexander Payne, A Touch of Sin de Jazanke, Inside Llewyn Davis des Coen, Only God Forgives de Bing Bing Reffen, Le Passé de Faraday, Tel Père Tel Fils de Koreeda, et dans d'autres sections on va retrouver Fruitvale Station de Coogler qui fera plus tard Black Panther etc. On va retrouver The Bling Ring de Coppola, L'Inconnu du Lac de Guiraudy. Ça, donc c'est une magnifique année 2013. Le Festival de Cannes est-il le meilleur baromètre du cinéma mondial?
On peut toujours dire que c'est de la communication bien placée, mais c'est ce que les Américains disent aussi, le plus grand festival de cinéma au monde. Ça donne quand même le ton. Et puis par chez nous, généralement, les films qui sont présentés à Cannes, qui sont récompensés à Cannes, ils ont plutôt une belle vie en salle, même s'ils sont pas forcément attractifs pour un grand public. Je pense à Winter Sleep. Qui a été, je crois, palmé l'année
bien
d'après. L'aspect qu'on peut garder de Cannes, c'est qu'il arrive à mettre en lumière des talents proposés aussi au grand public, parce qu'il y a le label cannois, en fait. Donc, il y a plein de gens qui ne font pas forcément tout le temps au cinéma, qui ne sont pas forcément cinéphiles, qui ils ont juste à voir la petite gommette, tu vois, Festival
la
de Cannes.
Palme,
même des fois, juste sélection. Tu vois, moi, je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, dès qu'il y avait marqué Sundance sur un film, j'y allais direct. Des fois, j'étais super émerveillé. Des fois, je trouvais ça atroce. Mais non, je pense que Cannes, si encore...
C'est encore la référence, à ton avis.
L'édition de 2019 avec...
Parasite.
Et,
qui a commencé à Cannes et qui allait jusqu'au quasiment fait un 12 mois plus tard, qui a gagné l'Oscar.
Moi, je sais que j'y étais pas et que beaucoup de collègues m'ont dit ouais, ça, c'est excitant, ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas une aussi bonne édition. Alors, c'est peut-être facile de le dire, mais 10 ans, donc du coup, tu remontes en arrière. Et oui, c'était le début des années 2010.
Mais tu vois, même en 2021, t'as Julie en 12 chapitres, Drive My Car, Red Rocket, et tous ces films-là sont aux Oscars cette année et ont commencé à Cannes, par exemple.
Oui, non, mais c'est un incubateur, c'est sûr. C'est indéniable que c'est un incubateur. Et là, en plus, t'as cité 3 films. Alors, j'ai vu que Red Rocket, que j'ai beaucoup aimé. Mais quand je vois Drive My Car, qui est un film, et arrête-moi si je dis de bêtises, mais qui est un film japonais, 3 heures, j'ai cru comprendre, je ne l'ai pas vu et je vais le rattraper, que c'est 2 personnes dans une voiture, tout ça. Enfin, c'est quand même pas facile d'amener ça.
Et 4 nominations aux Oscars.
Enfin, 4 nominations aux Oscars.
Puis il est aussi bien placé puisqu'il arrive en mai, donc en général, effectivement, juste après la fin, on va dire, de l'année cinéma qui est marquée par les Oscars. Il arrive quand même au début de cette année cinéma et peut-être qu'effectivement il donne un peu le ton mieux que peut-être la Mostra de Venise qui a malgré tout, par exemple comme cette année-là, en 2021, de très, très beaux films, parce que la Mostra de Venise en 2021 t'avais le Almodovar, le Sorrentino, l'événement de Audrey Diwan, le dernier duel de Ridley Scott, donc t'avais quand même aussi des films magnifiques à la Mostra.
Mais après c'est comme les César ou les Oscars, enfin, c'est forcément quelque chose qui donne de la lumière à un plus large public qui n'est pas habitué et voilà, donc ça légitime quelque chose.
Bien sûr, mais parfait, ça conclut parfaitement effectivement notre discussion sur La vie d'Adèle et cette édition Cannes 2013. 2013 assez formidable. Ouais. On l'a vu.
Souvenir.
Vous êtes toujours en train d'écouter Anne Lumière. On est toujours avec François Rieux. Et on est toujours en train de parler de 2013. Et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission.
Let me tell you something. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man. And I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch.
Ah, cette voix, ce discours, il n'y a pas de noblesse dans la pauvreté. Vous l'aurez reconnu peut-être, cette voix, c'est celle de Leonardo DiCaprio, Léo. Puisqu'effectivement, 2013 est une année Léo, et en préparant l'émission, François, on a vu qu'il y avait des films magnifiques, et ils avaient tous en dénominateur commun cet acteur formidable, que tout le monde connaît évidemment. Leonardo DiCaprio en 2013, c'est Le Loup de Wall Street, comme on a pu entendre, l'extrait qu'on a pu entendre. C'est également Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann, où il est bien sûr en tête d'affiche. Et c'est aussi, alors c'est pas un film qui est sorti en 2013, puisqu'il est sorti fin 2012, mais c'est un film que les spectateurs auront découvert en 2013 également, c'est Django Unchained de Quentin Tarantino. Et du coup, ces trois films-là, en 12 mois, mine de rien, les spectateurs auront dans les salles trois Léo différents, ce qui est quand même pas mal du tout. Léo DiCaprio, rapidement, c'est une carrière qui a commencé en 79 jusqu'à aujourd'hui. Il a fait 44 films, il a 47 ans, il a tourné avec les plus grands, Baz Luhrmann, James Cameron, Spielberg, Scorsese, Tarantino, Iñárritu, Ridley Scott, Sam Mendes, Clint Eastwood, bref, plein de gens formidables. Cette nomination aux Oscars pour une seule victoire en 2016, c'était pour The Revenant d'Alejandro Iñárritu. Première question simple, François, pour lancer ce thème. Qu'est-ce qu'il incarne pour toi, Leonardo DiCaprio ?
Leonardo DiCaprio, je pense qu'il incarne pour moi un rival dans l'adolescence. Tu vois, toutes les filles n'avaient Dieu que pour lui. Non, plus sérieusement, il a emboîté un peu le chemin d'un Brad Pitt qui est un peu plus âgé que lui, à savoir comment on transforme, comment un beau gosse arrive à se transformer en performeur et en caractère acteur. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, bon, DiCaprio, c'était surtout Titanic et Roméo et Juliette.
Le Minet.
Ouais, le Bellâtre. Il y avait Basketball Diaries aussi, mais ça, c'était un peu plus confidentiel, parce que le film était un peu chaud.
Un peu arty.
Ouais, voilà. Et finalement, il y a cette rencontre avec Spielberg d'abord, puis Scorsese, qui me fait amener à me dire, ah, mais en fait, c'est peut-être pas juste une gueule d'ange, il peut proposer d'autres choses. Et effectivement, quand tu le vois chez comment Scorsese, avec qui il a tourné 5 fois, si je dis pas de bêtises, a pu l'utiliser, c'est devenu ce qu'on appelle galvaudément le plus grand acteur de sa génération. Il y a quand même quelque chose chez lui qui est fascinant, cette capacité à endosser des rôles pleinement, à rentrer dans ses personnages, mais tu as toujours ce petit truc de Léo, et c'est pour ça que tu vas au cinéma, c'est pour ça que tu vas voir un film de Leonardo DiCaprio pour voir Leonardo DiCaprio se battre contre un ours. Tu vas le voir pour sniffer un rail de coke. Et un peu comme Brad Pitt, encore une fois, il y a cette, j'ai pas envie de dire sympathie, mais c'est comme retrouver un peu un vieux copain.
Ouais.
Et j'ai redécouvert Le Loup de Wall Street 10 ans après sa sortie en salle hier soir. Et ouais, c'est fou. C'est fou. Il en fait trop, mais c'est fou.
Notamment sur les appels téléphoniques, là où il est avec ses collègues, où c'est juste DiCaprio qui s'amuse avec ses mimes,
c'est
à faire
un
truc, et c'est un one man show vraiment, et c'est un délice, quoi.
C'est savoureux. Déjà, en fait, vu qu'il joue un courtier qui a du mal à s'élever socialement et qui retombe dans la dèche et qui après devient multimillionnaire, enfin, il y a ce truc de, il doit vendre un produit, donc pour vendre un produit, il faut se mettre en scène. Donc déjà, il y a cette mise en abîme de la mise en scène. Et moi, en fait, je regardais ça hier soir, je me disais, il en fait des tonnes, là, quand il serre les dents, quand il rentre dans la voiture alors qu'il est sous je sais plus quelle drogue et qu'il fait n'importe
les
quoi.
Les Qualoud.
Et qu'il se vautre par terre. Mais il y a quand même un truc hyper jouissif. Et c'est pas parce qu'il en fait trop qu'il est ridicule. Il a toujours cette espèce de chaos contrôlé, DiCaprio. Et je trouve que c'est l'un des rares à faire ça. Enfin, Gatsby le Magnifique, il y a une scène où il pète un plomb. Le Loup Wall Street, il pète un plomb. Dans Django Unchained, il y a cette scène où il pète tellement un plomb qu'il s'est ouvert la main sur le tournage et qu'ils n'ont pas coupé la scène. Anecdote connu mais toujours sympathique. Donc moi c'est vraiment un acteur que j'affectionne beaucoup.
Moi pendant longtemps, tu disais c'est le meilleur acteur de sa génération. Moi pendant longtemps, DiCaprio, ça a été un acteur que j'avais un peu zappé, même quand il faisait un Scorsese, etc. C'était, il avait effectivement fait Roméo plus Juliette, il avait fait Titanic, donc t'avais ce côté, il est dans une case minée pour jeune spectatrice. Mm-hmm. Il y avait ce côté, il avait un jeu très interne et à un moment donné où t'avais d'autres acteurs qui du coup comme Christian Bale, comme on a parlé d'Heath Ledger, ouais. Qui eux se transformaient, changeaient leur corps, changeaient leur façon de vivre et d'être. Et s'imprégner complètement ce côté un peu acteur studio dans un rôle, alors que lui, certes, il se transformait, certes, il endossait ses rôles de belle manière, mais comme tu disais, il y avait toujours ce petit côté de Léo.
Ah oui.
On avait ce côté rassurant où il ne disparaissait pas derrière le rôle, là où d'autres acteurs, justement, disparaissaient jusqu'à s'abandonner dans un rôle. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui l'a tenu éloigné des Oscars pendant longtemps, parce que on sait bien que l'Académie des Oscars aime bien récompenser les gens qui en font des caisses. Il y avait toujours ce côté Léo qui était très agréable d'un côté et qui était aussi qui desservait peut-être de l'autre.
Mais j'ai pas eu l'impression que DiCaprio il ait cherché dans sa vie à pousser la transformation au-delà du masque.
Non,
ce que je veux dire.
Voilà, il est pas.
Il y a pas l'idée du caméléon. Il y a pas l'idée de torturer son corps sciemment pour arriver à ses fins. Qui joue Edgar Hoover ou l'enquêteur de Shutter Island?
Ou Howard Hughes.
C'est jamais qu'un travail de maquillage, d'accessoires, de prothèses. C'est là où c'est d'autant plus fort. Après, en revoyant quand même le Loup de Wall Street, je me dis, il en fait tellement des caisses que moi je pense qu'il aurait fallu lui donner. Et après, en même temps, The Revenant, c'est encore donc 3 ans plus tard, donc tu vois, il réitère le truc dans des paysages glacés, il fait froid, vrai fausse baston avec un ours.
Il perd des kilos là pour le coup, il joue la carte à fond du caméléon, ce qui marche bien. Et du coup, il a son Oscar. Il a fait ce qu'on lui a demandé et il a son Oscar. C'est un peu triste parce que il est peut-être plus intéressant dans Loup Wall Street, qui est un film qui justement restera peut-être plus dans les mémoires que The Revenant.
En fait, Loup Wall Street, c'est jamais que les affranchis chez les brokers de Wall Street, avec des balayages de caméra de fou. Et notamment, on parlait un peu d'anomalie Gravity, ou de, j'avais dit caillou dans la chaussure, mais la vraie anomalie pour moi en 2013, c'est ce film-là, c'est le Loup de Wall Street. Mm-hmm. Parce que dans toutes les sorties qu'il y a eu, préquel, sequel, reboot, tout ça, il y a ce film très ambiance, un peu voilà, comme les affranchis, très 90s, un peu aussi casino.
Un peu anachronique.
Un peu anachronique, où effectivement il y a des orgies filmées en full frontal, où on voit des prothèses péniennes gigantesques, où ça prend de la drogue, où il y a une moralité plus que douteuse et qui est érigée qui est starifiée. Ce film-là, et là encore c'est passéiste et décliniste même, et je sais pas si on pourrait refaire un film comme ça, les studios pourraient refaire un film comme ça, reproduire un film comme ça, en 2022, tu vois.
Justement, t'en parles là, tu parles de Scorsese. Moi, j'allais te poser une question. On a vu que DiCaprio, donc, il est dans le game depuis très longtemps, 40 ans. Il a commencé, pour rappel, il a commencé très jeune. C'est un child actor à la base. Il a commencé avant ses 10 ans, je crois. Et quand tu regardes sa carrière, effectivement, c'est impressionnant. Il a tourné avec d'immenses réalisateurs. À ton avis, quel a été le réalisateur, la rencontre la plus importante de la carrière de DiCaprio, toi? Qu'est-ce qui l'a vraiment amené à un autre endroit?
Chronologiquement parlant, quand il fait... arrête-moi si tu peux, c'est 2002 ou 2004?
2002.
Quand il fait Gang of New York, c'est 2002 aussi. Mais il y a ce doublon où je pense qu'il y a un certain public, que ce soit masculin ou pas, qui s'est dit, en fait, ce gars-là peut être autre chose, effectivement, que le Minet à Midinette. De Titanic ou de Roméo et Juliette, vu qu'il avait un visage à l'époque qui était très poupin, très même juvénile et poupin, il y a cette idée de voir grandir l'acteur grâce à ses collaborateurs.
Ça, c'est marrant que tu dis ça, parce que Arrête-moi si tu peux et Gang of New York, c'est quand même deux films qui jouent quand même un petit peu sur ça. Arrête-moi si tu peux, c'est quand même un mec qui met en scène sa vie,
ouais,
et donc qui joue sur ce côté façade, oui, présent, il présente bien, c'est un golden boy,
ouais,
il en fait des caisses, donc il y a aussi ce côté, il présente bien. Et Gang of New York, t'as ce côté, il est jeune face à un Daniel Day-Lewis
qu'on connaît. Voilà.
Et donc t'as ce entrechoquement. Et moi, j'invite les auditeurs à vraiment regarder Gang of New York, et donc la première collaboration qu'il a avec Martin Scorsese, et à revoir par exemple Wall Street, ou même on attend novembre et on va voir ce qu'il va faire avec Scorsese. Mais on voit vraiment une évolution du jeu de DiCaprio dans ces 10 ans de collaboration avec Scorsese. Et moi, dans Gang of New York, on regarde DiCaprio, on voit un DiCaprio qui est encore un peu brut dans son jeu. Il est, il est, il il surjoue des expressions parfois, tu te dis tu devrais pas faire ça,
ouais.
Tu sens qu'il est encore un petit peu jeune, alors que 10 ans plus tard, ouais, au contact peut-être simplement aussi de son âge et de son expérience, et on a un jeu qui est plus fin, qui est plus raffiné, qui est plus façonné, mais on voit vraiment l'acteur grandir sous nos yeux, et en plus dans une collaboration qu'il a avec un réalisateur, c'est assez passionnant. Mais c'est vrai que dans Ghost New York, il est encore un peu, je le trouve un peu brut. Clair.
Après, tu vois, si on remet dans le contexte et si on essaie de se mettre dans les baskets de Léo DiCaprio, ça doit être sacrément impressionnant de se dire que la même année tu tournes avec Spielberg et Scorsese, de se dire j'ai quand même une aura presque de pop star et on me donne deux rôles qui sont ambitieux, un peu plus adultes. En face, dans un, il a Christopher Walken qui joue son père, dans l'autre il a Daniel Day-Lewis qui est le méthodiste, l'acteur méthodiste par excellence. Je te parle pas, je me mets sur ma chaise, il y a cette photo très connue où ils sont chacun de leur côté.
Quelle scène magnifique, cette scène est assez dingue.
On comprend que c'est les balbutiements d'un nouvel âge chez DiCaprio. C'est grâce à ces films-là, et notamment je trouve avec ceux de Scorsese, où il retrouve Scorsese d'année en année, Gang of New York,
Aviator,
Les Infiltrés, Shutter Island. Et là effectivement tu vois un acteur grandir, et quand t'es un adolescent, pour pas dire mon âge, quand t'es un adolescent des années 90-2000, tu grandis avec cette personnalité là, donc forcément ça touche, d'où l'idée de, et j'aime bien ce que tu disais, de toujours essayer de voir un petit aperçu de DiCaprio, que tu retrouvais un vieil ami.
2013, on a cette année quand même du coup formidable, Le Loup de Wall Street, Gatsby le Magnifique, où c'est un film, voilà, moi j'aime beaucoup Gatsby le Magnifique,
ouais, moi aussi.
Je suis pas très fan de Baz Luhrmann en général, Gatsby le Magnifique je le trouve assez dingue,
ouais.
Et on a juste avant Django Unchained, on sent qu'il se passe 12 mois où il se passe quelque chose dans la carrière de DiCaprio. Est-ce qu'on n'est pas justement dans la plus belle année de l'acteur?
T'as trois quand même rôles hyper différents, trois cinéastes différents, donc je sais pas si c'est son prime, mais t'as un éventail très très large. Il y a une intronisation, ouais, je pense, dans l'année 2013, il y a un truc du style, ok c'est bon, il a plus trop à prouver qu'il sait jouer des saltives, qu'il sait péter un câble, mais il y a quand
il
même...
Il diversifie quand même énormément.
Il diversifie énormément. Après,
c'est la première fois qu'il jouait un méchant, je crois, à Django Unchained.
Il faudrait...
Vraiment. Bon, il a joué des rôles ambigus, genre Aviator, bien sûr, qu'il est pas tout rose, des infiltrés, bien sûr.
Non, mais si, t'as raison, un bad guy.
C'est un raciste. Pour moi, quand on m'a dit il joue dans Tarantino, déjà, chez DiCaprio chez Tarantino, ouais, mais mille fois oui.
Ouais.
Et en plus, quand il joue un esclavagiste,
un coton raciste, un propriétaire d'esclaves.
Et tu dis DiCaprio, le minet, tout blond, tout gentil, tout beau, tout ça, il va jouer un raciste qui... C'est dingue, il sort sa zone de confort.
Non, c'est clair, et je pense que c'est une suite logique avec des coups d'éclat qu'il y a eu. Tu parlais d'Aviator, moi je parlais des Infiltrés. Blood Diamond, qui est un peu un film oubliable, mais dans lequel il a un super rôle et pour lequel il avait été nommé aussi à l'Oscar. Et en fait, t'as ce côté très fédérateur chez DiCaprio. Enfin, moi, j'ai plein d'amis, pas forcément dans le milieu, pas forcément cinéphiles. S'il y a un film avec DiCaprio, ils le regardent, ils vont le voir. C'est non négligeable, c'est une valeur sûre. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, c'est devenu un mème. C'est-à-dire qu'en revoyant Le Loup de Wall Street, le nombre de mèmes qui sont sortis du Loup de Wall Street et de gifs qui sont sortis du Loup de Wall Street, c'est vraiment une forme de postérité aussi. C'est une postérité numérique.
Populaire aussi.
Populaire.
C'est une validation populaire.
Ouais, qui est propre à l'époque. Mais quand tu veux narguer un potato aujourd'hui, t'envoies le mème de DiCaprio avec son petit verre et sa petite grimace. Et ça intronise ça.
Et c'est marrant d'ailleurs de voir à quel point tout le monde... 3 ans plus tard, quand il y a eu l'Oscar pour Revenant, tout le monde était derrière lui. En tout cas, il y avait une espèce de soutien populaire pour aller, on va donner un Oscar à Léo, parce que tout le monde était quand même assez d'accord de se dire il aurait dû l'avoir depuis 1000 ans. Et quand tout le monde l'a eu, tout le monde était content, comme des parents fiers de leur enfant. Alors que
on l'accompagne en lui tenant.
Il y avait quand même ce truc assez fou. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que peut-être ce qui participe aussi de ce côté acteur qu'on aime bien, c'est que c'est mine de rien un acteur qui reste depuis, en tout cas c'est un acteur qui est relativement rare d'ailleurs.
Il est rare, il est assez secret.
Ben, depuis 2013, il n'a fait que 3 rôles.
Ouais.
The Revenant, Don't Look Up et Whitey et Once Upon a Time in Hollywood.
Ouais, ouais.
Donc en fait, il a fait 3 rôles
en
10 ans.
Non, mais il est exigeant.
Donc tu te dis 3 rôles en 10 ans pour un acteur de son âge, c'est quand même assez ballsy.
Il peut se permettre cette exigence-là comme se permet un Daniel Day-Lewis. Il a envie de s'inscrire quand même dans une logique d'acteur méthodiste, alors pas transformiste, pas caméléon, mais méthodiste. Et je pense que l'exigence et le culte de la rareté, c'est ce qui fait la force de sa carrière aussi.
Avant de terminer ce thème sur Léo, notre ami Léo. J'aimerais juste te poser une question. Donc là, il a 47 ans, il vient de faire Don't Look Up. Dans, à la fin de l'année, en novembre, là, il va être dans le Martin Scorsese Killer of the Flower Moon pour Apple TV+. Dans quoi t'aimerais le voir, DiCaprio, dans les 30 ans qui arrivent là? Où est-ce que t'aimerais le trouver?
Non, j'aimerais qu'il soit un peu comme Day-Lewis, c'est-à-dire qu'il sache quand est-ce qu'il faut raccrocher les gants et pas faire le film de trop. Alors, j'ai énormément de respect pour Robert De Niro, c'est potentiellement mon acteur préféré, mais et je comprends qu'il faille payer ses factures et que de temps en temps, ben, t'as envie de jouer, donc t'acceptes un peu tous les rôles. Mais les fins de carrière sont parfois douloureuses chez les acteurs méthodistes. Moi, je préférais que, qu'à un moment donné, ils se disent, bon, j'ai fait dans ma vie, je sais pas combien de films il a fait, mais il dit, j'ai fait une centaine de films, il y en a 20 qui sont considérés comme des classiques, il y en a 5 ou 7 dont je suis fier de la performance, tu vois. Là, je paraphrase un peu ce qu'avait dit Depardieu dans une interview. Et qui disent, c'est bon, je me retire. Et
comme un Nicholson, comme un Gene Hackman.
Ouais, exactement. Comme Nicholson, Gene Hackman. Ou alors, effectivement, qu'à un moment donné, un cinéaste jeune et très prometteur le sorte vieillissant, comme Coppola fait avec Brando pour Parrain, tu vois.
J'adorerais voir un DiCaprio vieillissant. Donc, Look Up, ça m'a fait réaliser que j'adorerais voir DiCaprio faire plus de comédie. Mais voilà, c'est que en fait, je trouve que DiCaprio a un potentiel comique. Dans le Wall Street, on le voit dans Don't Look Up, il est tiré à quatre épingles et il est et à la fois attendrissant et touchant et en même temps aussi très drôle. Je trouve qu'effectivement, il a une dimension comique que t'as très peu vu dans sa carrière, mais après, voilà.
Après, tu vois, 47 ans, c'est encore jeune. Mais s'il continue à avoir cette exigence-là, tu m'as un peu vendu du rêve, là. Je l'imaginais avec des rides, avec des cheveux argentés, vieillissant, un peu plus empâté. Et j'aimerais le voir tourner chez David Lynch, mais bon, je pense que ça...
T'aimerais le voir chez qui, d'ailleurs, DiCaprio?
Je suis nul à ces questions. Il a quand même un sacré palmarès en termes de réalisateur.
Moi, justement, pour dans ma volonté de voir DiCaprio plus comique, j'adorerais voir DiCaprio. Non, j'adorerais voir DiCaprio chez Lantimos.
Ok.
Un Colin Farrell.
Ouais, comme un Colin Farrell. Ouais,
tu vois, la favorite, comme tu vois, tu prends Emma Stone qui
Tu tords les images.
Tu mets des gens un peu ridicules. Et DiCaprio chez Yorgos Lantimos, mais tous les jours.
Ouais, grave.
Parce que c'est un mec qui écrit magnifiquement bien et qui arrive à prendre des icônes et les tordre un peu.
Je suis d'accord. Frère Cohen, il n'a pas fait Frère Cohen, tu vois, je dis pas des bêtises.
Il n'a pas fait Frère Cohen.
Frère Cohen, tu vois, la manière dont ils ont fait la trilogie des idiots avec Clooney, la manière dont ils permettent à Brad Pitt de s'auto-caricaturer dans Burn After Reading, moi je serais assez client de ça. Et d'ailleurs, c'était vraiment un questionnement qu'on a pu avoir à la sortie de Once Upon a Time in Hollywood, à savoir est-ce que c'est pas les deux derniers monstres sacrés en activité du cinéma américain, et de les voir transposés dans les années 70 à l'époque de Sharon Tate, la Manson Family et un certain cinéma Nouvelle Hollywood en pleine expansion, c'était fort délicieux.
C'était savoureux, effectivement.
Ouais, j'ai envie de revoir, du coup.
On a envie de revoir ce film, on a de revoir toujours et encore plus Léo DiCaprio, qui était au cœur de notre troisième thème de cette émission sur 2013. On n'a pas tout à fait terminé, vous savez comment ça se passe. On ne va pas vous quitter avant de vous partager nos recommandations de cette année-là, tous ces films qu'on n'a pas pu évoquer dans les thèmes et qui sont un peu nos coups de cœur. Voilà. Alors, nos recommandations de cette année 2013, nos coups de cœur, nos films qu'on a envie de vous conseiller. Toi, tu avais un film particulier, François, que tu avais envie de conseiller aux auditeurs. Un film particulier dans une version particulière.
Ouais, c'est exactement ça. Donc, je prends un peu le vieil adage, plus c'est long, plus c'est bon. Et je le tords pour parler de Cartel. Alors, Cartel, j'aime beaucoup ce film déjà dans sa version.
De Ridley Scott. Donc, The Counselor. Avec Fassbender, Cameron Diaz, Brad Pitt.
Bardem aussi, voilà. Et Penelope Cruz.
Qui raconte quoi, The Counselor, The Cartel?
C'est là qu'est le problème. De quoi parle Cartel? On sait pas trop. beaucoup de gens sont fait un peu chier devant parce que ça fait que parler. En gros, c'est The Counselor, donc il faut imaginer un avocat très successful, très brillant, qui se retrouve un peu à faire le malin avec la pègre, les cartels mexicains, l'argent sale, de la drogue, parce qu'il veut accéder à un certain confort matériel et aussi s'encanailler avec des méchants pas beaux. Et de là, il tombe dans une spirale infernale et il y a beaucoup de sang, il y a des meurtres et tout ça. Pourquoi j'aime Cartel? Déjà parce que c'est un film qui est beaucoup sur le dialogue. Ça a été scénarisé par Cormac McCarthy. Donc pour les auditeurs, c'est l'écrivain qui a notamment écrit le livre No Country for Old Men, Un enfant de Dieu, que je recommande, qui est un super livre. Et donc c'est du cinéma un peu poisseux. Il y a un côté héritage du Bayou. Enfin,
c'est un peu malaisant.
Ouais, c'est très cohenien. C'est pour ça que les Cohen d'ailleurs ont adapté No Country for Old Men. Et dans sa version longue, c'est plus violent, c'est plus sexuel, c'est plus brutal, c'est plus, y a beaucoup plus de blabla aussi. Donc les gens qui n'ont pas aimé la version du cinéma n'aimeront pas la version longue, mais je recommande à ce qu'ils la voient quand même. Et y a quelque chose de très, j'ai fait la comparaison il n'y a pas longtemps, c'est un peu comme le film Showgirls de Paul Verhoeven, c'est grotesque, les scènes de sexe sont grotesques. Ça commence dans la version longue où il y a une scène de pénétration digitale sous les draps entre Fassbender et Penelope Cruz, sur un petit moment intime, très mal filmé. Une scène de sexe très mal filmée.
Ridley Scott, pourtant, hein, Alien, Blade Runner, Gladiator, Joaquin Phoenix.
Il sait bien filmer un Alien. Est-ce qu'il sait bien filmer une scène de sexe? Il y a très peu de cinéastes, finalement, qui savent filmer de belles scènes de sexe.
Kechiche, peut-être.
Kechiche.
On revient dessus.
Noé aussi. Donc, c'est ringard. Mais en fait, c'est forcément culte. Pourquoi c'est culte? Parce que c'est quand même un film. Si tu enlèves Trafic en 2000 et un
Soderbergh.
Peu aussi de Soderbergh, absolument, et aussi un peu La Cité de Dieu en 2002, qui parlait des favelas brésiliennes, dans un autre deal de drogue, Cartel, il arrive en 2013. C'est un film Cartel qui ouvre une certaine voie, je trouve, ça c'est ma théorie, au divertissement de Cartel. Je m'explique. Il arrive en 2013. Ensuite, en 2014, tu as Sicario. Tu as la série Narcos. Après, tu as un délire de décliner Pablo Escobar grâce à la série Narcos. Donc, on fait Paradise Lost, et là, faut pas que je me trompe, avec Benicio del Toro, et on fait Escobar avec Bardem. Bardem qui joue aussi dans Cartel, où dans Cartel, il joue un bad guy complètement taré, habillé dans des tenues dignes de MC Hammer. Tu vois, c'est vraiment les années 90. Une scène de sexe incroyable où Cameron Diaz se frotte sur un pare-brise de voiture. Donc, c'est 10 ans avant Titan aussi, scène de sexe. Tu vois, c'est un film vraiment, j'engage tout le monde à le regarder. C'est un peu long, il fait 2h20. Il y a 20 minutes en plus dans la version longue. Mais effectivement, c'est sanglant, c'est grotesque.
Et il aurait lancé toute une.
C'est ma théorie.
C'est ta théorie, c'est une théorie comme les autres, qui aurait lancé toute une série de films et de séries justement cartels.
Et donc c'est forcément culte, et je le recommande chaudement. Si vous avez une soirée à perdre ou un dimanche pluvieux, si vous avez 2h20 à tuer, regardez Cartel dans sa version longue non censurée, comme elle est appelée.
Cartel de Ridley Scott, c'est donc ta recommandation, voilà. François, pour l'année 2013. Merci beaucoup. Ma recommandation à moi, elle va être un petit peu plus légère, un petit peu plus douce, un petit peu sanglante peut-être, puisque je vais vous recommander un documentaire qui est sorti en 2013 et qui s'appelle Le Royaume des rêves et de la folie de Mami Tsunada, qui est un documentaire sur le studio Ghibli et notamment la fabrication des films Le Vent se lève de Hayao Miyazaki et Le Conte de la princesse Kaguya d'Isao Takahata. Un documentaire qui nous propose donc de rentrer dans le sein du sein, le cœur du cœur, les studios Ghibli ou ces studios qui ont créé Le Voyage de Chihiro, qui ont créé Le Tombeau des Lucioles, Mon Voisin Totoro, Porco Rosso, le meilleur film du monde, La Princesse Mononoke, etc., etc. Donc une multitude de films formidables, et c'est aussi l'occasion de ce documentaire vraiment de suivre au plus près vraiment la réalisation, et on a l'impression que c'est une caméra vraiment pas amateur, mais en tout cas qui ne se gêne pas de fioritures ou d'autres choses, qui est assez naturaliste et qui nous permet d'être au plus près de deux génies de l'animation mondiale, qui sont donc Miyazaki et Takahata, un peu plus Miyazaki quand même, et de voir la naissance de ces deux derniers films de ces réalisateurs-là, puisque encore à l'heure actuelle, Le Vent se lève est le dernier film de Miyazaki, et Le Conte de la princesse Kaguya est malheureusement le dernier film de Takahata, qui est décédé depuis. Et donc on voit le fonctionnement de Ghibli, on voit la vie de studio Ghibli qui a du coup aussi un peu, qui est aussi un peu une anomalie, puisque Ghibli c'est très familial, c'est pourtant un studio mondialement connu qui a fait des films mondialement connus et qui a une histoire folle, et pourtant il y a ce côté très familial, très convivial, vraiment un peu anachronique par rapport aux autres studios comme Disney, comme Pixar ou comme d'autres choses comme ça, et on est au plus près de cette équipe là, et surtout on est pendant 2 heures collé à Miyazaki, en train de créer, en train de dessiner, en train de faire ce qui est son dernier film encore à l'heure actuelle. Et c'est drôle. Et c'est drôle parce que moi j'adore Miyazaki comme beaucoup, et de le voir, un Miyazaki versatile qui à la fois est mélancolique, désabusé, dépressif. Il est très dépressif, Miyazaki. Il a des phrases cultes d'ailleurs sur internet. Parfois t'as des phrases qui sortent, qui sont tirés du documentaire,
qui dit
l'animation n'a aucun sens, ma vie n'a aucun sens, la vie est nulle. Bref, il dit tout ça n'a pas de but, de Ghibli va se casser la gueule. Enfin, il est très dépressif, et l'instant d'après, il est joueur, il est joyeux, il s'arrête sur une petite image poétique, un soleil qui tape une feuille, et il dit, la vie est belle, et du coup, de le suivre vraiment au plus près, c'est, t'as vraiment l'impression d'être à ses côtés. Et en plus, il parle à la caméra de Mami Tsunada, donc ça te donne vraiment t'as vraiment l'impression d'être avec lui et de voir un artiste comme il y en a très très peu au plus près. J'avais l'impression, moi, de voir De Vinci peindre ses tableaux. Et là, tu vois vraiment Miyazaki dessiner, construire son film avec tous les problèmes d'une production de film, c'est-à-dire des scènes qui changent, trouver la bonne voix pour le personnage, trouver la bonne fin, et puis le producteur Toshio Suzuki qui également fait partie de l'aventure, qui est aussi un producteur emblématique de Ghibli. Donc c'est vraiment un documentaire assez saisissant et assez formidable qui s'appelle Le Royaume des rêves et de la folie.
Génial.
Et qui est un cadeau pour les fans de Ghibli et les autres, et qui est ma recommandation pour l'année 2013. Voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré à l'année 2013. Donc, avant de vous quitter, souvenez-vous, pour les 3 ans de l'émission, un jeu concours est organisé pour faire gagner des DVD des films Riders of Justice et Les Mitchell contre les Machines en partenariat avec Cinématiseur, et des films donc Le Vent se lève et Le Conte de la Princesse Kaguya en partenariat avec Wildside. Rendez-vous sur le compte Twitter d'Année Lumière pour les infos et pour participer. J'aimerais bien sûr remercier mon invité François Rieux. Merci François.
C'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir permis d'être là, et j'étais très honoré d'être choisi, et c'était super d'échanger avec toi sur ça a remué beaucoup de souvenirs, tu vois, je suis un peu ému. Je me dis putain, quand même 10 ans, ça passe vite. Et encore félicitations pour ton podcast qui, je trouve, est toujours très très édifiant, même quand on a, ou surtout comme moi, quand on a des lacunes sur le cinéma, sur certaines périodes du cinéma. Donc félicitations, bon anniversaire.
Merci infiniment. Merci,
merci à toi.
C'est un plaisir. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio, qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Et enfin, un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité depuis 3 ans déjà. N'oubliez pas de partager cet épisode et de suivre le compte Twitter d'Année Lumière, et de soutenir l'émission via le site Utip si vous voulez m'aider à produire la meilleure des émissions possibles. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.